Quand 8 jours furent accomplis, il fut circoncis et on lui donna le nom de Jésus, celui que l'ange avait indiqué avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout mâle né le premier de sa mère sera consacré au Seigneur », et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple, Israël. » Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle était restée veuve. Âgée de 84 ans, elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte, nuit et jour, par des jeûnes et des prières. Elle aussi survint à ce moment même. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et devenait fort. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
On arrive au terme de notre série de l'Avent dans l'Évangile de Luc. On me signale simplement que pour la sonorisation, ce serait utile de mettre en mode avion votre portable, si vous l'avez encore allumé. Il n'y aura pas de repas servi pendant le vol, je vous préviens simplement. Mais il faudrait mettre le portable en... Je me souviens d'une cassette VHS pour les nostalgiques. Il y en a certainement parmi nous, des nostalgiques des cassettes VHS. Une cassette que j'avais quand j'étais enfant et que je repassais en boucle. Il s'agissait d'un documentaire sur les Coupes du Monde de foot entre 1962 et 1986. Elles étaient commentées par Thierry Roland, pour ceux qui connaissent, qui lui-même avait couvert les différentes Coupes du Monde. Et dans les moments forts de la vidéo, on avait 1982, 1986, où l'équipe de France arrive dans le dernier carré, mais pas jusqu'à la finale. Là, vous avez 86 avec Platini. Mais en 1998, Thierry Roland est là pour commenter avec Jean-Michel Larqué la finale de la Coupe du Monde ici en France contre le Brésil. Et où là, la France a gagné, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Et avec 3 buts, ça vous devriez le savoir aussi. Et Thierry Roland, à la fin de la rencontre, disait la chose suivante. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Vous vous souvenez de ces paroles, pour ceux qui avaient regardé le match? C'est à peu de choses près ce qu'on entend dire à Siméon dans notre texte. Si vous regardez bien, verset 29, « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » On peut lire dans d'autres traductions, « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix. » C'est ça qu'il a en vue, il peut mourir tranquillement parce qu'il a vu le salut de Dieu. Et ce genre d'affirmation, c'est l'occasion de se poser la question, qu'est-ce qu'on attend de la vie? Qu'est-ce qu'on attend de voir dans la vie qui nous permettrait de dire, je peux mourir tranquillement, je peux mourir paisiblement, je peux affronter la mort sans avoir de soucis, avoir atteint un certain niveau dans ma carrière professionnelle? Ou est-ce que ce sera le sentiment d'avoir été généreux dans l'amour pour les autres, dans le soin pour les plus démunis? Est-ce que ce sera d'avoir vu mes enfants devenir autonomes, recommandables, avoir laissé une marque dans l'histoire ou un patrimoine à mes proches? Qu'est-ce que je voudrais avoir vu qui me permettra, lorsque la mort approche, de pouvoir dire « je peux mourir tranquillement » Qu'est-ce que Simon a vu de si apaisant, de si satisfaisant, qui peut dire cela? Et si on devait comparer ce qu'il voit, lui, avec ce que nous nous entrevoyons, ou nous pensons, comme Thierry Roland ou d'autres, qu'est-ce qu'on dirait de cette comparaison? Il est décédé, Thierry Roland, l'an dernier d'ailleurs. Quand on fait cette comparaison, qu'est-ce qu'on va dire de ce comparatif? Ça, c'est les questions qu'on va avoir en arrière-plan de ce soir. Et il sera question d'attente. Je vous suggère que c'est bel et bien dans le texte. Il y a les attentes d'un accomplissement. On le voit par exemple avec Siméon au verset 25, où il est dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Prenez Anne ensuite. Quand elle a rencontré Jésus, ses parents, nous a dit qu'elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption à Jérusalem. Et à travers le témoignage de ces personnes, on réalise que des attentes sont comblées. On verra plusieurs attentes qui sont comblées en la personne de Jésus. Et ce sera l'occasion de réfléchir à cela. À travers ces rencontres, qu'est-ce qu'on va découvrir au sujet de chacun d'entre eux? À travers la rencontre à travers ce qui nous est dit de Joseph et Marie, qu'est-ce qu'on entend dire de Jésus? De Siméon, idem, d'Anne. Et on va commencer avec Joseph et Marie, puisque ça commence avec ça. Et il y a quelque chose qui frappe dès qu'on lit ce qui concerne Joseph et Marie. Au verset 22, selon la loi de Moïse. Verset 23, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Verset 24, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. Verset 27, pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi. Verset 39, lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur. Bon, ça va, Luc. On a compris. Vous avez vu cette répétition de la loi du Seigneur, la loi de Moïse. Pourquoi est-ce qu'il met l'accent sur cela? N'est-ce pas parce qu'il y a les marques d'un accomplissement? D'un accomplissement. Et pas seulement la loi. Faisons un petit rappel, ou plutôt un survol des allusions aux Écritures dans ce texte. Les Écritures dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Déjà, il y a la circoncision qui est pratiquée sur Jésus, 8 jours après sa naissance. Ça rappelle l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, et inversement. Le nom qui lui est donné à ce moment-là, Jésus, ce qui signifie « Dieu sauve », un nom qui a du poids. C'est le nom qui avait été donné à Josué dans la conquête du pays promis. L'allusion à la purification concernait une mère qui avait donné naissance à un enfant et son offrande au terme des jours où elle ne pouvait pas être en présence d'autres personnes et dans la ville religieuse et sociale de l'époque. Cette purification marque la fin. Elle peut à nouveau reprendre cette vie courante, normale. La présentation de l'enfant en tant que premier-né, c'est le premier enfant. Et ça rappelle la sortie d'Égypte, où tous les premiers-nés avaient été préservés la nuit avant de sortir d'Égypte. Et symboliquement, un agneau avait dû être sacrifié, symbole d'un jugement dont ils allaient être préservés, ces premiers-nés. Et il y a là les allusions qui rappellent aussi un autre, des ressemblances avec Samuel, une autre figure importante de l'Ancien Testament. Au-delà de la naissance, et on voit tous les parallèles, au-delà de la naissance inattendue dans les deux cas, tous les deux sont amenés à la maison du Seigneur, au temple. Tous les deux sont présentés au Seigneur dès leur jeune âge. Et le résumé de leur croissance est très similaire. Verset 40, c'est à peu près les mêmes paroles qu'on dit de Samuel. Et tous les deux, finalement, vont vivre une vie consacrée à Dieu, entièrement donné à Dieu. Et on réalise que il y a dans ces premiers-nés, que ce soit Samuel ou Jésus, une vie entière qui accomplit la loi de Dieu, le projet de Dieu. Où est-ce que Luc veut en venir? Est-ce qu'en fait, il est en train de nous dire « Ses parents sont remarquables, ils obéissent à la loi dans tous les différents domaines ?» Ben, d'une certaine façon, oui. Certainement, Luc veut mettre en évidence que ce ne sont pas des parents dissidents. On accusera Jésus par la suite d'être contre la loi de Moïse, de s'en détourner. Ben, il n'est pas né dans un contexte où on se détournait de la loi de Moïse, non. Ses parents étaient bien fidèles. On peut dire aussi, comme Wissam l'a soulevé tout à l'heure, que c'est dans un contexte de pauvreté. Ce qu'ils offrent, c'est deux pigeons ou deux tourterelles plutôt qu'une brebis, ce qui devait être offert normalement, mais pour les pauvres, il était pourvu cette loi-là. Mais au-delà de l'attention portée sur les parents, c'est l'attention sur Jésus qu'il nous faut voir. Écoutez le commentaire d'un exégète sur ce passage. Ce passage présente Jésus non pas simplement comme un premier-né, mais plutôt comme le saint dont la vie accomplit celle de tous les premiers-nés d'Israël dans sa consécration au service et au plan de Dieu. Le reste du récit va mettre en évidence ce point de manière indiscutable. Dès le début, sa vie elle est marquée par une consécration totale, complète. Il est celui qui, à la différence de tous les autres premiers-nés, n'ont pas réussi à vivre selon cette loi. Il est celui qui, au contraire, arrive à vivre selon cette loi toute sa vie. Devant la loi morale de Dieu, que d'autres ont outrepassé, lui, il tient, et depuis le début. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Ben, peut-être dans les termes de l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, on y voit un peu plus clair. Galates 4, versets 3 et 5, à 5. « Nous aussi, lorsque nous étions des tout-petits, nous étions esclaves des éléments du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. » Face à notre incapacité depuis notre plus jeune âge à vivre selon même la loi de nos parents, sans parler la loi de Dieu, lui, il est le parfait Fils qui a vécu sous cette loi et qui nous rachète de nos esclavages à nos propres désirs, à notre égocentrisme et au désir de faire notre propre loi. Et quand on pense à un accomplissement qu'on a mentionné tout à l'heure, le fait de voir une équipe gagner la Coupe du Monde ou l'accomplissement d'une existence, de votre existence, comment est-ce que vous allez la comparer avec ce que Jésus a accompli? Ici, on réalise qu'il y a plus que sa destinée, l'accomplissement de sa vie à l'individu, ou même sa famille, ou même une nation. Il y a au bout du compte le rachat de tous ceux qui vivent selon les éléments du monde, selon des principes égocentriques et personnels. Il veut donner à chacun la possibilité d'être enfant de Dieu. Un privilège immense. Mais il faut aller plus loin pour comprendre de quoi il s'agit vraiment. Et il est temps de parler de la rencontre avec Siméon. Quand est-ce qu'on trouve le témoignage d'une personne sur son parcours, sur sa destinée? Quand est-ce qu'on parle de ses plus beaux moments, de ses moments difficiles, de ses épreuves de la vie que la personne a su surmonter? Quand est-ce qu'on parle de tout cela, d'une destinée formidable? N'est-ce pas au moment de la mort de quelqu'un? Généralement, les médias, quand une célébrité décède, vont se tourner vers telle ou telle personne qui la connaissait et vont lui poser des questions, ce genre de questions, pour savoir ce qu'ils en disent, ce qu'ils en pensent. Ce qui est frappant dans notre texte, c'est qu'on découvre le témoignage de personnes alors que Jésus n'est qu'un bébé et on nous parle de sa destinée. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on pourrait savoir à l'avance la destinée d'un enfant? C'est pas possible ça, non? Dans ce qui est dit de Siméon, on saisit assez rapidement que ce n'est pas par lui-même qu'il sait ces choses. Il n'y a pas une intelligence intrinsèque. Même s'il est attaché à Dieu, droit, il y a une insistance sur l'œuvre de l'Esprit-Saint. Regardez, verset 25, « L'Esprit-Saint était sur lui. » Verset 26, « Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, autrement dit le roi promis. Il vint au temple poussé par l'Esprit, une insistante sur le fait que c'est l'Esprit qui lui a permis de saisir ces choses, d'attendre cette rencontre. Il faut maintenant se poser la question de tout à l'heure, qu'est-ce que Siméon a vu dans cet enfant de profondément apaisant? Qu'est-ce qui lui procure une profonde satisfaction au point où il peut envisager la mort sereinement? Jésus, il incarne tout d'abord la consolation d'Israël au verset 25. Après des défaites successives sur le plan de la nation, des exils, plusieurs prophètes ont parlé d'une consolation qui allait venir et Jésus l'incarne par sa personne. Il est cette consolation. Jésus incarne aussi le salut de Dieu. Il le résume en sa personne. Et quelqu'un pourrait dire, mais attendez, on parle de la croix. La croix, c'est le moment central où on parle du salut, non? La résurrection, c'est essentiel. Eh bien, Siméon sait que tout cela est en germe dans cet enfant. C'est vrai, il ne voit certainement pas tout ce qui doit arriver, mais il sait que le salut se résume en Jésus. Et il trouve une profonde satisfaction. Jésus incarne la lumière pour les nations. Intéressant que la vocation du peuple d'Israël, c'était d'être une lumière pour les autres nations, sorte de révélation, qu'ils puissent savoir qui Dieu est. Le problème, c'est que Israël n'a pas su être à la hauteur de cette vocation. Et c'est lui qui incarne cette lumière, qui révèle qui est Dieu, parfaitement. Et Jésus incarne ensuite la gloire du peuple d'Israël. Ce salut, il est venu par le peuple, par la lignée d'Abraham, la lignée de David. Et c'est un sujet de fierté, même si le salut est pour tous, il est bel et bien venu de cette lignée. Consolation, salut, lumière, gloire, des termes forts qui doivent dire que Siméon a vu quelque chose de grandiose et qui lui permet justement d'envisager sereinement la mort. La vie éternelle est en germe dans cette personne. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'aussi apaisant? Est-ce que vous pouvez trouver quelque chose d'aussi apaisant? Même Thierry Roland, quand il dit la mort le plus tard possible, mais on peut. La mort, est-ce que vous êtes prêt à l'envisager? Ou est-ce que, comme l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, qui peut dire que c'est ce qu'il y a de meilleur parce que c'est ce qui lui permettra d'être auprès du Seigneur? Ou est-ce que, comme lui, vous pouvez dire « Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Tu es désarmé parce que Jésus a remporté une victoire. » Ou comme dans 2 Corinthiens 5, « Désirez être auprès du Seigneur parce que c'est cela qu'il y a justement de meilleur. » Est-ce que vous pouvez penser à la mort d'une manière aussi sereine? L'envisager sereinement? Ou est-ce que cette mort, en fait, elle doit être repoussée le plus loin possible? Signe qu'on n'est pas si serein que ça, après tout. Ici, l'accomplissement est tel que la mort, elle n'a plus cette crainte, elle ne provoque plus cette crainte qui doit être repoussée. Ça ne veut pas dire que la mort est belle, qu'il faudrait la chérir, la voir comme quelque chose de magnifique. Elle reste une ennemie. Mais Siméon peut y faire face sereinement parce qu'il a vu le salut de Dieu. Maintenant, quelqu'un, en entendant tout cela, pourrait dire « Mais ça, c'est le message de quelque chose d'apaisant. C'est ce qu'on a envie d'entendre. L'effet placebo, l'opium du peuple, la méthode Coué. » Si c'est un message qui peut paraître attirant, et je pense qu'il l'est vraiment, ce que Siméon dit ensuite à Marie n'est pas si attirant que ça. Il se tourne vers Marie pour lui dire que Jésus va provoquer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il y aura comme une division qui va être provoquée dans cette nation, et on le voit. Et ça va aller loin jusqu'à son propre cœur qui va être transpercé. comme si une épée allait la transpercer. Et ça, c'est la douleur qu'elle va vivre en tant que mère. Rien n'est dit de Joseph. C'est vrai que par la suite, on ne le voit plus. Est-ce qu'il est décédé ? Difficile à dire, mais elle qui va voir la trajectoire de Jésus jusqu'au bout, elle va être transpercée par une épée. L'attachement à Jésus vient avec son lot de difficultés, et ce n'est pas simplement pour Marie. Il y aura tous les regards condescendants que les uns ou les autres peuvent recevoir parce qu'ils sont chrétiens. L'ostracisme ou la persécution dans certains pays. C'est un chemin de souffrance, le fait de rester attaché à Jésus. Il viendra avec son lot de renoncement et de souffrance, de division aussi. Et si pour Siméon et pour d'autres, c'est une consolation, un salut, une lumière, une gloire, pour d'autres encore, Jésus n'est rien de plus qu'un enseignant qui a enseigné quelque chose d'agréable à entendre ou de beau moralement, mais pas plus. Un homme remarquable, mais pas plus. Pour d'autres encore, il n'a même pas existé, c'est une supercherie. Il y aura de toute façon un positionnement. Et les termes sont trop forts ici pour adopter une position neutre. Est-ce qu'il est ce salut ? Est-ce qu'il est cette gloire ? Est-ce qu'il est cette lumière ? Cette consolation ? Ou est-ce qu'il ne l'est pas ? Et si on ne se positionne pas vraiment, c'est déjà un positionnement. On n'y croit pas vraiment. Le cœur de chacun, comme le dit Siméon, sera révélé dans l'attitude vis-à-vis de lui. Alors, qui est Jésus pour vous ? Est-ce qu'il est cette consolation ? Est-ce qu'il est cette lumière ? Est-ce qu'il est cette gloire ? Ce sujet de fierté ? On arrive maintenant à la dernière rencontre, rencontre avec Anne. Et dans la description qui est faite d'Anne, Luc met l'accent sur son attachement à Dieu. Elle a été mariée pendant 7 ans, cette femme. Mais après le décès de son mari, c'est de longues années de veuvage. En fait, il est difficile de savoir si les 84 ans, mentionnés dans le texte, sont toutes les années de sa vie, ou 84 ans après le décès de son mari. Autrement dit, elle serait peut-être décédée aux alentours de 106 ans, comme les jeunes femmes se marier tôt, ça peut monter jusque-là. Mais même si ce n'est pas le cas, il y a toutes ces années où elle vit dans un attachement à Dieu. Il est fait mention de ses prières, de sa vie dans le temple. Et son profil à elle nous permet de faire un petit survol de tous ceux qui attendaient cette consolation en Israël. Vous avez un jeune couple, Joseph et Marie. Vous avez un couple âgé, Zacharie et Elisabeth. Vous avez Siméon, un homme âgé. Anne, une femme elle aussi âgée. Variété de personnes qui ont vu en Jésus l'accomplissement de leur attente. Moi, ce qui m'a frappé en constatant un peu ce que Luc met en avant ici, en comparant avec Matthieu, c'est qu'il y a une formidable complémentarité. Quand on pense à Matthieu, il est d'origine juive, il est trempé dans la culture juive, il cite beaucoup les Écritures et on réalise qu'il veut s'adresser à des personnes d'arrière-plan juif. Il met le paquet plus que Luc quand il cite les Écritures. Luc, le seul auteur non-juif du Nouveau Testament, ben lui, il se réjouit de ce que le salut il est disponible pour tous et pas simplement pour les juifs. Mais ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est que Luc, plutôt que de nous dire « Mais regardez, tous ces juifs qui n'ont pas reçu Jésus et qui l'ont méprisé, ce qui est tout à fait vrai, beaucoup l'ont méprisé », il se plaît à montrer comment des juifs étaient dans l'attente. Et Matthieu, lui, il se plaît à montrer comment des mages qui étaient loin sur tous les plans, théologiquement, ethniquement, géographiquement, ils étaient loin. Eux aussi ont reconnu en Jésus qui il était. C'est le témoignage d'une femme ici qui, malgré la solitude et le veuvage, a goûté à un accomplissement, une attente qui a vu son accomplissement. Et depuis ce jour-là, elle en parle à tout le monde, à tous ceux qui l'attendent avec elle. Il y a un sondage sur Sofres qui est sorti l'autre jour au sujet de l'aide intergénérationnelle. et avait un spécialiste interrogé sur France Info. Et une remarque qu'il a faite, à mon avis, était intéressante. Les gens qui s'occupent d'autres personnes sont finalement moins préoccupés par leurs propres soucis. Personnes plus âgées qui prennent le temps de prendre soin d'autres personnes, finalement, elles sont moins conscientes de leurs propres problèmes. Et pour lui, c'était quelque chose de fort, il disait même indiscutable, quand il considérait l'ensemble des réponses données. Maintenant, il serait possible, sur la base de ce sondage, de se dire, eh bien, moi, pour bien vivre ma vieillesse, je vais prendre soin des autres pour être bien. Mais là encore, ça pourrait être dans un souci simplement égoïste. Pour que je puisse bien vivre ma vieillesse, je vais prendre soin d'autres personnes. Dans le cas d'Anne, on trouve une personne qui a trouvé en Jésus un parfait accomplissement. Et parce qu'elle trouve cette satisfaction en lui et cette joie en lui, elle peut continuer à en parler à d'autres et aller vers d'autres personnes, trouver la joie d'un partage. Et ces deux dimensions sont là. Elle loue Dieu, elle remercie Dieu et elle en parle avec d'autres. Quand je pense à Anne, je pense à une femme âgée dans la banlieue de Londres chez qui je suis resté il y a 5 ans environ, pendant 1 an. Elle approche des 90 ans. Elle vit toujours. Célibataire toute sa vie. Sa vie, elle a été marquée par un attachement au Seigneur, un désir de partager cette bonne nouvelle, en particulier avec des enfants. Elle accueillait des enfants chez elle pour un club où en fait, elle enseignait la Bible aux enfants. Quand j'étais là, elle avait aussi plusieurs réunions de prière chez elle. Et là, on a pris une photo parce qu'elle aimait bien rire. Et on trouvait qu'elle ressemblait à Miss Marple dans une série TV. Alors, on a mis en scène... Là, elle vient de découvrir l'auteur du crime. Mais cette femme, elle était marquée par cette piété, cette véritable piété. Et je me souviens quand elle, assez rapidement, elle voulait être honnête par rapport à son âge, par rapport à ce qui l'attendait, le fait que la mort était probablement pas loin, lucide. Elle m'a parlé du cantique qu'elle voulait, qu'on chante au moment de ses funérailles, un cantique qu'on a plusieurs fois chanté. Et j'aimerais tout simplement vous lire quelques extraits de ce cantique. Quel fondement solide est posé pour vous dans sa parole excellente. Que peut-il vous dire de plus qu'il n'ait déjà dit à vous qui avez trouvé refuge en Jésus. L'âme qui se repose sur Jésus, je ne l'abandonnerai jamais. Jamais. Et si ces paroles étaient les vôtres? Je vous invite à la prière. Notre Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes en Jésus de voir un plein accomplissement, un parfait salut. Celui qui procure une paix parfaite. Et nous te prions que tu nous accordes la grâce de le voir, de le reconnaître comme tel, et d'en parler autour de nous, comme l'a fait Anne. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.